Résignons-nous.
Carte blanche.
C'est eux qui employaient la menace du gros bâton.
La carte blanche de Stéphane Bureau.
The prospects for peace keep diminishing. The chances of further escalation and bloodshed keep growing. I fear the world is not sleepwalking into a wider war. I fear it's doing so with its eyes wide open.
Stéphane, Antonio Gutiérrez, secrétaire général de l'ONU, qui dit que les perspectives de paix diminuent. Je crains qu'on soit en train de marcher vers un bain de sang et une guerre plus ouverte, les yeux grands ouverts.
Oui. Disant que le conflit en Ukraine risque de s'emballer, l'escalade toute proche, et effectivement, on risque une guerre plus étendue. Il y a une dizaine de jours, c'était l'ancien président Donald Trump qui parlait d'une possible troisième guerre mondiale. Tu me diras Donald Trump. Mais quand s'aligne Guterres, Donald Trump et le démographe historien français Emmanuel Todd, qui a provoqué lui beaucoup de réactions il y a quelques semaines, je ne sais pas si tu avais été attentif à ça, en affirmant que nous étions déjà entrés en guerre, que la troisième guerre mondiale avait bel et bien commencé. Il y a d'autres qui diront qu'on est plutôt dans la deuxième guerre froide, c'est possible. Personnellement, je crois davantage à un scénario de guerre chaude. Elle interpelle d'abord et avant tout les Ukrainiens aux premières loges, les Russes ensuite, qui envoient au front des dizaines de milliers de soldats, mais cette guerre est potentiellement comme un puissant trou noir qui pourrait attirer tout ce qui se trouve à sa périphérie, si on ne fait pas très attention. L'intensité du conflit, d'ailleurs, en Ukraine risque de monter d'un cran avec une vaste offensive russe qui se prépare autour de Bakhmut. On n'en parle pas beaucoup. Je reviens souvent là-dessus, mais évidemment, à l'automne, on était très enthousiastes collectivement à l'Ouest à l'idée que les Ukrainiens récupéraient de leur territoire. Les Russes se sont même retirés de manière préventive, tactique, pour se regrouper. Et là, ils reprennent l'initiative. Je pense que ce conflit risque de s'enliser avant de se régler. Et dans ce contexte, il est certainement utile de rappeler que la première guerre mondiale, elle commence pas avec l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo en juin 1914, comme on l'a appris dans nos livres d'histoire. Et je m'excuse pour ce petit détour par les belles histoires de l'oncle Steph. Les rivalités entre la France, l'Angleterre et l'Allemagne, coloniales, puissances coloniales, sont vives en Afrique, par exemple, bien avant 1914. En 1912, la Grèce, la Bulgarie, la Serbie font la guerre à la Turquie. On ne nous parle pas souvent de ça non plus. Et ça menace d'entraîner dans ce sillon les forces de ce qu'on appelait la Triple Entente, donc la France, l'Angleterre et la Russie, qui étaient alignées contre celles de la Triple Alliance, donc l'Allemagne, l'Italie et l'Autriche. L'histoire se répète souvent. Donc, les mêmes protagonistes qui vont se déchirer officiellement 2 ans plus tard dans ce qu'on va appeler la Première Guerre mondiale, mais ça avait commencé avant. La deuxième, officiellement, la Deuxième Guerre mondiale, débute avec l'invasion de la Pologne par l'Allemagne en septembre 1939. Est-ce que c'est là, toi, que tu marquerais le début de la Deuxième Guerre mondiale?
Ben, techniquement, c'est ce que nos manuels d'histoire nous ont enseigné.
Alors, vrai. Mais on pourrait dire aussi que l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne, l'Anschluss, en 1938, est un autre marqueur important du début des hostilités. Je crois personnellement qu'il faut retourner davantage en arrière, que le début de la Deuxième Guerre remonte à l'annexion de la Mandchourie par les forces japonaises, c'était en 1931. Ensuite, avec l'invasion de la Chine, toujours par les Japonais, en 1938, je crois, ou 1937. On est donc très loin du théâtre européen. Pourtant, le déplacement des pièces en Asie va avoir un impact déterminant sur le cours de l'histoire, sur le cours des événements, et ce qu'on appellera ensuite la Deuxième Guerre. Alors, revenons aujourd'hui. Un conflit local à la frontière est de l'Europe, en Ukraine, est-ce qu'il est destiné à embraser le monde? Non, si c'était vraiment un conflit local. La réalité, c'est que la Russie est en guerre, je le répète souvent, mais pas contre l'Ukraine ou l'Ukraine contre la Russie, mais la Russie fait face à l'OTAN. C'est une guerre contre un système de valeurs qu'on incarne aussi. On n'en parle pas souvent de ça. Ce que le démographe Emmanuel Todd, français, dont je parlais tout à l'heure, appelle le monde patrilinéaire. qui n'est pas notre monde, ou d'abord contre la parenté paternelle. J'aimerais revenir à cette idée, puis ça a l'air un peu pété. Ce ne l'est pas du tout. Vladimir Poutine se bat pour protéger sa frontière à l'Est, aucun doute, mais aussi pour faire valoir des valeurs qu'il estime, je pense, lui et sa gang, en brèche, ou battu en brèche par l'Occident progressiste et diversitaire, pour employer les mots de l'époque. L'enjeu est donc pas que territorial, c'est aussi profondément culturel et social. Ce sont des visions du monde qui s'affrontent au-delà de l'enjeu de frontières. On pourrait, je pense, en forçant la caricature, parler d'une fracture entre le monde woke, nous, et une réaction conservatrice, autoritaire même, incarnée donc par la Russie de Vladimir Poutine, mais qui trouve des échos partout dans le monde.
Ouais. Parce qu'on est entre démocratie et autoritarisme.
Oui, c'est ça, d'une certaine manière, parce qu'on est tenté de croire que c'est un conflit qui oppose le monde à la Russie. Mais c'est pas du tout le cas. C'est l'Occident, donc l'Europe, l'Amérique du Nord, dirons-nous, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon, la Corée du Sud, quelques petits pays, mais ça forme pas une majorité. 75% du monde est officieusement avec les Russes ou refuse de les condamner, qui ne dit mot consent. C'est le cas pour une bonne partie de l'Afrique, de l'Asie, qui sont pas de notre côté. La Chine, l'Inde, qui pèsent démographiquement très lourd, sont des alliés discrets de Moscou sans être actifs dans le conflit. Mais qu'arriverait-il s'ils devaient choisir un camp? Puis je parle pas de l'Iran, qui ne porte pas dans son cœur nécessairement les États-Unis, qui est déjà résolument engagé aux côtés de la Russie dans le conflit. Et le jeu des alliances est toujours pervers. Ça nous ramène à ce qui a engendré les conflits qui nous ont précédés dans l'histoire, la Première et la Deuxième Guerre mondiale, dans une perspective où la Chine se sent menacée à sa frontière, à Taïwan, parce que pour elle, c'est son territoire, peut-on penser qu'elle aura intérêt éventuellement à pas décourager la Russie de maintenir la pression en Europe? Les Américains sont super puissants, belliqueux en ce moment. Mais l'idée d'être engagé sur deux fronts, aussi important, je parle de l'Est, par exemple, en Europe et en Asie, c'est pas une mince affaire. Les Indiens, je parle de l'Inde, comme les Saoudiens, mesurent leurs intérêts en ce moment. Historiquement, Washington, c'était le numéro de téléphone que tu composais quand tu étais dans le trouble. Est-ce que ça sera la solution automatique s'il y avait un conflit plus important? J'en suis plus tout à fait convaincu. Et c'est dans ce contexte que l'augmentation des transferts d'armes vers l'Ukraine est certainement un indice d'escalade réelle. Je suis convaincu, moi, que M. Gutiérrez, quand il parlait hier, pensait à ça. On nous disait que les choses se déroulaient bien sur le terrain, de notre point de vue, que les Russes étaient dans les câbles. C'est pas parfaitement vrai. L'information est très bien filtrée, masque souvent la complexité de ce qui se passe dans les tranchées. Moscou n'est certainement pas le géant qu'on nous avait annoncé, géant militaire, mais ne perd pas pour autant la guerre sur le terrain. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé, ou depuis quelques jours, des tanks modernes, mais on a aussi parlé de chasseurs, d'avions de combat, des F-16, qui sont toujours sur la liste de M. Zelensky. Joe Biden avait dit non à ses chars Abraham pour justement éviter l'escalade. Il a changé d'idée. Les avions pourraient peut-être connaître le même destin. Pour l'instant, on dit non aux Ukrainiens. Alors, à quel moment on va franchir la frontière floue qui fait qu'on est en guerre active ou non avec la Russie? Peut-être jamais. C'est certainement le souhait, parce que j'ai pas envie de faire peur à personne ce matin. C'est le souhait qu'on peut se faire. Mais les risques d'erreurs de calcul vont maintenant croissant, il n'y a absolument aucun doute. Puis on pourrait dire que les principes qui sont en jeu, on en a souvent parlé, toi et moi, l'intégrité de l'Ukraine, son élan démocratique, sont fondamentaux. On peut tolérer, nous, aucun compromis là-dessus. Je rappelle quand même que les Américains ont passé les 75 dernières années à appliquer une morale démocratique qui était parfaitement élastique pour accommoder leurs intérêts supérieurs. Et l'Ukraine ne ferait pas exception. S'ils poussent le bouchon en ce moment, je pense que c'est parce que les Américains estiment qu'il y a une occasion de tacler, de plaquer Poutine et d'en tirer profit. Ce sont peut-être les mêmes qui se réjouissent à Washington de trouver un prétexte pour pas envoyer le secrétaire d'État américain, M. Blinken, à Beijing, rencontrer le président Xi Jinping. On en parlait hier matin. C'est une grosse partie de poker avec de possibles effets domino qui sont susceptibles de changer les rapports de force très rapidement. Après un an, je pense que c'est dans 10 jours à peu près qu'on va fêter ou célébrer, devrais-je plutôt dire, ce conflit, le premier anniversaire de ce conflit. C'est malheureusement loin d'être terminé. Puis je pense que les chances d'être aspiré dans quelque chose de plus grave augmentent avec le temps. Ou devrais-je dire avec l'OTAN.
Mais penses-tu que c'est aussi peut-être l'Occident qui voit peut-être un bluff de Poutine? Tu sais, j'avais une ancienne diplomate qui disait, faudrait qu'on ferme l'espace aérien. Là, il serait temps qu'on envoie des avions pour protéger le ciel. Puis Poutine n'interviendra pas, là, d'aller plus loin même dans ce conflit-là, parce que selon sa lecture, les Russes n'iraient pas plus loin ou ne voudraient pas eux non plus envenimer le conflit, là.
C'est très possible. Je pense qu'ils doivent, comme nous, songer aux conséquences possibles d'une escalade. Ceci étant dit, jusqu'à maintenant, cette idée de contrôler les cieux a toujours été extrêmement contentieuse, épineuse, et je pense que la Maison-Blanche, on mesure ce que ça signifie, parce que ça peut représenter quelque chose qui ressemble à un acte de guerre. Donc, est-ce que c'est une étincelle qui pourrait faire en sorte que le feu soit mis aux poudres davantage, j'en sais strictement rien. J'ai beaucoup de difficultés à mesurer ça. Je trouve ça très, très audacieux comme proposition. Puis je ne veux pas douter de la lecture clairvoyante de la personne avec qui tu parlais. Mais je ferai très attention à toute manœuvre trop audacieuse, cowboyesque. Je ne suis pas aux manettes, je ne suis qu'un simple observateur, mais j'ai la certitude, parce que l'histoire nous l'enseigne, que c'est souvent quand on pense qu'on a l'initiative ou qu'on est convaincu que les risques ne sont pas aussi grands qu'on pourrait le penser, qu'on fait l'erreur de mettre le pied sur une mine. Et le problème, c'est que dans ce cas-ci, c'est possiblement des populations au-delà de l'Ukraine qui seront menacées. Donc, il faut le mesurer. Je reviens toujours à ça. Si on a des principes et que ces principes valent la peine qu'on fasse la guerre, sommes-nous prêts à envoyer des hommes et des femmes au conflit ou livrer le combat? Et c'est là que ça devient très sérieux. Et je pense qu'on n'a pas encore posé ces questions.
Ouais.
Et que ça deviendra éventuellement... parce que c'est comme... Principe, on envoie des armements et à un moment donné, soudainement, en 24 heures, tu te réveilles, puis c'est les principes réclament des hommes et des femmes sur le front.
Est-ce qu'on est prêt à ça?
Je pense que la question, il vaut mieux de la poser avant que dans l'urgence, quand ça devient inévitable.
Ouais, parce que de toute façon, la ligne change. C'est un peu ce qui est notre ligne rouge, ouais. Et la ligne rouge de l'autre aussi.
Et ce qui est intéressant, c'est la diversité des personnages de ce qu'ils incarnent et qui disent « on est pas mal là ». Est-ce que tu peux imaginer un axe plus divergent que M. Trump et le secrétaire général des Nations Unies qui ont à peu près la même lecture? Puis après ça, on pourrait faire l'inventaire de tous ceux. Todd est intéressant, il a fait beaucoup la manchette en France, d'abord parce que c'est quelqu'un de sérieux, souvent, comment dirais-je, contesté, parce que c'est un historien qui a des idées. C'est un de ceux parmi les premiers à avoir diagnostiqué le possible effondrement de l'Union soviétique. Mais sa vision, je reviendrai à ça, du monde patrilinéaire, donc du monde des hommes, disons-le comme ça, qui se sent en lutte ou en guerre contre l'Occident progressiste. C'est pas juste une guerre de frontières, c'est une guerre de valeurs. Et dans l'histoire, ça a déjà existé des guerres de valeurs. Il ne faut pas non plus sous-estimer ça. Je serais curieux de revenir là-dessus davantage. Mais chose certaine, je pense que c'est le temps de commencer à se poser des questions, ne serait-ce que parce que les risques augmentent et qu'on ne peut pas contempler ces risques sans avoir d'abord fait l'exercice de réflexion entre nous pour voir jusqu'à où on est prêt à aller.
Stéphane, à demain.
J'espère que j'aurai quelque chose de plus light.
Non, mais en même temps, ça fait. Je pense que c'est important d'y réfléchir. Juste d'y penser puis d'en parler, c'est tant qu'on a le temps puis le luxe de le faire, c'est tant mieux. Stéphane, merci.
Salut.
Ciao.